ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Epithem, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product.
Merci, merci à tous. Pour vous rappeler, donc effectivement, quand même, un petit coup de coucou, vous êtes chez Cinquanta. Cinquanta, une agence digitale de design de services. Donc on a la chance maintenant de recevoir Luca Comparini, IBM Blockchain. Donc il est blockchain leader, il est bâtisseur d'équipe, technologue orienté métier avec 10 ans d'informatique. Ça n'est pas un communicant, c'est quelqu'un qui était communicant mais qui est issu aussi de la technique. Il est expert en infrastructure informatique, Linux, logiciel open source, passionné par les débuts technologiques, les crypto-monnaies et la blockchain. Donc pour vous rappeler, 30 minutes de pitch, 10 minutes de questions-réponses. Luca, c'est à toi de jouer. Et après, si tu es sage, Robert, et que tu ne dissipes pas tout le monde. Lucas, c'est à toi. Merci.
Merci. Donc, effectivement, je suis la dernière chose entre maintenant et le après. Donc, j'ai une presse générique. Je peux descendre dans la technique. Je peux rentrer dans les cas d'usage. Juste, guidez-moi. Qu'est-ce qui vous intéresse de plus? En sachant que je ne veux pas parler de crypto, de token. Parce que malheureusement, le positionnement en IBM est un peu différent et je pense que la représentation token a été déjà faite. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Cas d'usage? Est-ce qu'il y a des gens un peu geeks dans la salle? Vous avez des questions aussi sur le comment ça marche sur certains protocoles? Ou pas du tout? Ok, donc je répète la question. Est-ce que Hyperledger sera compatible avec Ethereum un jour? Ok, je vais adresser ça. Autre question qui vous intéresse? Juste, je vais essayer de ne pas être trop chiant dans la présentation. Donc, si vous me donnez des insights, je vais aller dans vos directions.
Et si peut-être des études de cas que vous avez qui sont déjà en exploitation,
d'accord,
utilisant la blockchain.
Ok. Sur le luxe, par exemple, ok.
Sur la nourriture.
Sur la nourriture, bon, j'ai... On est dans le deuxième meilleur pays au monde pour le food, donc j'ai préparé des choses pour ça. Vous avez compris d'où je viens.
Comment?
Et les containers, ok.
Est-ce qu'il va y avoir des applications Watson
Hyperledger? Wow, Watson Hyperledger, ok. Ah ouais, ça date du début ça. Ça c'est le projet Adept, Device Democracy. Ça c'est un coup de génie d'IBM. Ça, de temps en temps, ça arrive.
Et au niveau de sauvegarde et de centralisation d'identité, est-ce que vous êtes
fullement
compatible?
Non, là, j'ai pas toutes les réponses sur ça.
Ah bon? Parce que ce qui est intéressant, c'est de vérifier ce qu'un verifiable credentials, ce qui a été créé par exemple sous Ethereum, il est vérifiable après sur Hyperledger, en fait, ce genre de choses.
Ouais, c'est ce qui implique la notion d'interopérabilité entre protocoles. C'est que je suis un garçon pragmatique, je dis que ce n'est pas pour tout de suite. Mais on pourra en parler. Autre chose? Bon, ça fait quand même un panel large. Alors, qu'est-ce que c'est la blockchain? Je rigole. Je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de ça. Okay, il n'y a pas de jugement de valeur bien ou pas bien. C'est juste que chez IBM, on a un positionnement qui est assez B2B. Et donc tous les sujets qu'on traite autour de la blockchain sont plus liés au monde du DLT, donc les distributed ledger, dans des contextes permissionnés. Alors, juste pour positionner de quoi je vais parler à partir de maintenant, je pense que tout le monde a plus ou moins une vision ici de la segmentation entre les différents technos, pas de jugement de valeur. Permissionless, pensez à Bitcoin, Ethereum public. Permissioned, pensez à Hyperledger par exemple, Hyperledger Fabric, mais aussi Ethereum, on peut l'utiliser dans des contextes permissionnés avec certaines configurations. Là, encore une fois, je reste un technologue à la base, donc je n'ai aucun jugement, mais je considère, et là c'est mon opinion perso, que tout ce qui est à gauche peut traiter des cas d'usage qui sont pensés pour être C2C, donc le peer-to-peer entre moi et toi. Et tout ce qui est à droite est vraiment pensé pour faire le B2B, donc le pair à pair entre IBM et SNCF. et peut-être d'autres. Parce que si on est seulement deux, ça ne marche pas super bien. Ou ça n'a pas beaucoup de sens. Donc tout ce qui change dans un contexte permissionné, c'est que les mécanismes d'incentivation du réseau qu'on peut retrouver dans des contextes C2C ou permissionless, genre le fait d'avoir de la monnaie, de la crypto-monnaie pour motiver le réseau, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve nativement parce que les incentives pour faire vivre le réseau, ils sont extrinsiques à la plateforme, extrinsiques au protocole. Donc si SNCF, Deutsche Bahn et Trenitalia sont autour de la même table, partagent quelque chose sur le même protocole, blockchain, peut-être ils ont déjà une motivation autre dans le monde réel à utiliser le même sous-jacent technologique, donc pas besoin de lui donner des éthers pour les incentiver à miner. Donc c'est pour parler des, vraiment terre à terre. Juste pour faire la même segmentation, mais sur un angle un peu plus technique, ça c'est quelque chose c'est un paper qui est sorti d'un garçon très intelligent qui travaille chez IBM à la recherche, où de facto il fait la même segmentation mais sur un angle un peu plus recherche et par algorithme de consensus. Donc je pense tout le monde sait ici qu'il y a plein d'algorithmes de consensus qui existent. Chaque algorithme de consensus a une finalité. Il y a des algorithmes de consensus tels que le proof of work que je trouve brillantissime pour adresser des réseaux infiniment larges. Et des algorithmes de consensus qui sont plutôt pensés pour des réseaux qui ont une taille limitée en termes de largeur, nombre de nœuds. Donc là, tout ce qu'on adresse aujourd'hui chez IBM, ça rentre plus ou moins dans cet horizon-là. Donc le order of magnitude 2 à 3, 10 puissance 2, 10 puissance 3 maximum, nombre de nœuds. Ce qui typiquement est suffisant pour traiter des cas d'usage B2B tels qu'on les traite aujourd'hui. Alors, vous allez voir ici, c'est pour moi évident, on n'utilise pas les mêmes algorithmes de consensus lorsqu'on est sur des réseaux dans lesquels on a une base de départ qui est que les nœuds sont identifiés, les identités derrière les nœuds sont identifiées, et les identités derrière les participants dans la blockchain ont une permission, donc un droit, un rôle, qui lui est attribué et qui donc détermine leur permission. Dans un contexte de blockchain de type DLT, de type Hyperledger Fabric, le processus de consensus n'a rien à voir avec le minage, ça n'a aucun sens, c'est plus quelque chose qu'on appelle endorsement, qui est structuré selon des phases, et qui permet, pour métaphorer de façon très très simple, c'est comme si dans un réseau, on détermine qui a le droit d'endorser les transactions pour un smart contract. Disons que c'est Luca, Paul et Jacques. Et chaque fois qu'il y a une transaction, Luca, Paul et Jacques, ils se posent la question, est-ce que tu as vu passer la même transaction que moi ? Et donc c'est un système de vote très rapide pour lequel l'ambition derrière la conception du Hyperledger Fabric, c'est d'arriver à un ordre de transactions par seconde d'environ 1000 à 10 000 avec une latence et un temps de commit qui est sub-second. Sub-second, dans le monde de la blockchain, pour moi, c'est du real-time. Alors, évidemment, si vous pensez, si quelqu'un est ici d'une boîte trading haute fréquence, la blockchain, ce n'est pas la bonne solution. Mais si pour vous, le real-time, c'est la seconde, ça peut se discuter. Des questions ? Alors, je skip très rapidement ça. Alors, blockchain chez IBM existe depuis 2012 au niveau recherche. Donc depuis 2012, on a des gens qui s'intéressent au sujet. En 2012, il y avait Bitcoin, quelques Xcoin et un peu plus tard, un début d'Ethereum. Donc le premier sujet qui a été traité chez nous, c'est effectivement le projet ADEPT, qui était le fait de tester pour une première fois la logique des smart contracts, mais appliquée à des objets connectés. Donc le premier cas d'usage, c'était sur une machine à laver, capable de détecter quand le réservoir de savon était presque vide et déclencher de façon if-then l'achat de savon si le réservoir était presque vide, de façon à respecter certaines règles sur un smart contract, telles que la proximité du retailer qui vend du savon, le prix, le temps de livraison et des règles métiers que vous pouvez coder sous forme de smart contract. Deuxième cas d'usage très similaire, c'était l'idée de doter la machine à laver de l'intelligence pour pouvoir détecter si une panne était arrivée à la machine, à un des composants de la machine à laver, voir si le composant était couvert par une garantie et si c'était le cas, déclencher l'intervention d'un technicien agréé qui après se baladait dans le monde physique et allait fixer les problèmes. Et le troisième cas d'usage, c'est celui-là qui a généré l'idée Adept, c'est la machine à laver dans un contexte dans lequel on a plein d'objets connectés, dans un immeuble par exemple, le contexte est l'immeuble, et la machine à laver cause avec les autres objets connectés, et les différents objets connectés arrivent à se mettre d'accord à quel moment rentrer en fonction, sur quelle plage d'utilisation rentrer en fonction, afin de réduire la consommation énergétique sur l'immeuble, donc sur le contexte. Et ça, c'était une chose ultra intéressante, c'est l'idée d'utiliser la blockchain comme un framework de gouvernance décentralisée pour pouvoir prendre des décisions, donc de baisser la prise de décision sur un contexte horizontal, sur des objets qui sont stupides en soi et qui doivent juste exécuter des if-then, mais de les coordonner au passage à travers un framework de gouvernance qui permet aussi de les faire converger vers une action à prendre à un certain moment. Donc ça, c'est le projet Adept et c'est de là qu'on vient. Et c'était un fork très early stage d'Ethereum. Après début 2015, donc ça c'était présenté au COS 2014-2015 en janvier. Après 2015, IBM s'est commencé à structurer au niveau global sur la blockchain et on a commencé à théoriser un protocole qui pouvait avoir du sens, donc un protocole 2.0, donc capable d'exécuter des smart contracts, mais capable de garder une notion de confidentialité et privacy. Parce que sur le monde de B2B, c'est juste incontournable dans les cas d'usage qu'on voit. Et d'avoir un algorithme de consensus modulaire capable d'atteindre le niveau de scalabilité et performance qui sont requises aujourd'hui, qui seront requises demain. C'est comme ça que du logiciel a été commencé chez nous. Moi, à l'époque, je venais de me autoproclamer roi de la blockchain chez IBM France. Et le produit s'appelait IBM Open Blockchain. C'était plus ou moins juillet-août 2015. IBM Open Blockchain, Open. Et en fait, la chose que je trouve intéressante, et c'est, je viens du monde de l'open source, c'est que déjà, il y avait le mot open dedans, donc il y avait déjà une vision ultra claire sur le fait que IBM allait se comporter pas comme l'IBM des années 60, mais comme l'IBM moderne, où on fait quand même un paquet de choses dans l'open source. Et à l'époque, en fait, on devait choisir le modèle de gouvernance, et on était indécis entre la Apache Foundation et la Linux Foundation. Donc ce qui s'est passé, je ne connais pas exactement les détails, c'est que en fait, le monsieur de l'Apache Foundation a rejoint la Linux Foundation et on a filé le code qui était dans nos labs de recherche à la Fondation Linux en co-créant avec eux une charte de gouvernance, un projet appelé Hyperledger et une impulsion pour démarrer un projet open source tel que le projet open source Hyperledger est aujourd'hui. Donc une sorte d'umbrella dans lequel on a plusieurs projets. Le premier projet, qui est le code initial qui arrive d'IBM, c'est Hyperledger Fabric, qui était un code qui était retravaillé dans un hackathon avec Digital Asset, et qui après a évolué sur l'impulsion de 200 quelque chose développeurs, de beaucoup de sociétés. Je ne me souviens plus des chiffres, mais IBM, c'est un des contributeurs parmi les 200 et plus contributeurs. Donc c'est du vrai open source. Après, c'est aussi vrai que dans le comité de pilotage technique d'Hyperledger, il y a des élections qui se passent, je pense, tous les 12 mois. Et il y a des gens qui sont élus sur une base de méritocratique de commits et pertinence des commits sur le Git. Et à vous de faire la lecture. Si vous aimez IBM, sachez qu'il y en a un paquet parmi les 12 qui sont des IBMers. Si vous n'aimez pas IBM, sachez qu'il y en a un autre paquet qui ne sont pas des IBMers. Donc à vous de choisir comment faire la lecture. Mais c'est du vrai open source. En fait, dans tous les projets qu'on porte aujourd'hui, on utilise ce protocole et ce n'est pas un protocole d'IBM. C'est un protocole de la Fondation Linux avec une licence Apache 2, donc c'est du open source business friendly. Au début, on faisait des cas d'usage principalement banque-assurance, 2015, 16, 2017. Et après, il y a un garçon chez Walmart, le VP of Quality, qui aujourd'hui est quand même le VP of Quality de l'autorité de régulation de la FDA, qui a eu l'idée, mais pourquoi pas utiliser l'histoire d'un registre qui a plein de qualités, immuabilité, non-répudiabilité, preuve d'intégrité et tout ce que vous connaissez, pour l'utiliser dans le contexte de réseaux verticaux. C'est-à-dire, vous avez à la page 12 du registre, à la page CDBlock, à la page 12 du registre, le producteur de mangue qui dit « j'ai produit 2 tonnes de mangue dans la parcelle A », à la page 33, le logisticien qui vient récupérer les 2 tonnes de mangue et les transporter vers un warehouse Walmart, à la page 47, le monsieur de Walmart qui réceptionne les 2 tonnes de mangue, qui commence à les laisser, les mettre en barquette. Et à la page 88, autre chose, la vente dans l'eau de mangue. Bref, le sujet, c'est comment on utilise la blockchain dans un réseau vertical, donc dans n'importe quelle supply chain, dans laquelle on a une multitude d'acteurs en séquence. Et à date, pour qui est un peu technologue, une vision de la data qui est très silotée. Donc on a des data silos par acteur, mais il n'y a pas un seul acteur qui a une visibilité transverse au process, la visibilité de l'asset, du pré- et post-traitement chez lui. Et l'idée, en fait, est très, je trouve, très valable, hein, et vous pouvez l'appliquer à tout ce que vous voulez. À des mangues, à de la viande de porc, à du produit de luxe, à des automotives, à des avions, à de la logistique. En fait, c'est l'émergence pour moi d'une idée de comment la blockchain peut avoir du sens dans des réseaux de coopération, autre que de coopétition. Donc, je zoome un petit peu sur des cas d'usage qui, à mon sens, sont les cas d'usage les plus mûrs parmi celles que IBM porte aujourd'hui. Et il y en a 3. Ah, on a des centaines de projets dans le monde. Et je pense que, vraiment, si on doit faire un focus sur ce qui marche vraiment à l'échelle, je pense que ça, c'est les 3 meilleurs exemples que je peux faire. Alors, premier exemple, c'est une plateforme de trade finance. Qui est dans la banque ici? Ok. Qui sait qu'est-ce que c'est le trade finance? Tu me permettras, je l'explique avec mes mots. Donc, quand vous, c'est import-export. Je suis Total. Et tu es un monsieur en Qatar qui a plein de oil. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je veux t'acheter du 100 millions de barils d'oil. Toi, tu veux me les vendre. Donc, on se met d'accord, on se tape la main. Sauf que toi, tu veux être payé. Et par contre, moi, je veux te payer une fois que je reçois ta marchandise, qui, entre-temps, se balade par voie maritime. Donc, entre le moment où toi, tu as mis tes barils de pétrole sur un bateau, et le moment où moi je reçois et après je te paye après 30 ou 60 ou plus jours, toi tu as une exposition au risque qui est juste monstre. Et donc il y a des systèmes de financement normal que les banques ont mis en place, ça s'appelle crédit documentaire. Donc il y a un système à 4 points, le importeur-exporteur, la banque de l'importeur, la banque de l'exporteur. Et entre nous on crée un dossier qui te garantit que tu seras payé. Si moi je ne te paye pas, c'est ma banque qui te paye. Si ma banque ne te paye pas, c'est ta banque qui te paye. Et pour faire ça, en fait, c'est un dossier très chiant, un processus ultra lourd, très paper intensive, très manuel, et qu'aujourd'hui, les banques d'affaires adressent qu'à des grands dossiers de financement et qu'à des grands clients. Parce que le processus est trop lourd pour avoir une quelconque rentabilité sur des petites transactions. Et l'idée de ce consortium, début 2017, c'est de dire il y a 7 membres fondateurs, c'est ces gens-là, qui se sont dit, bon, trade finance, c'est une évidence que c'est un cas d'usage pertinent pour l'utilisation de blockchain. On a tous intérêt à réduire les coûts collectivement des traitements, à dématérialiser la gestion du dossier. Donc, rappelez-vous l'histoire du registre, page 12, tu as demandé un dossier trade finance, page 13, j'ai dit ok, je suis d'accord, page 14, il y a la banque, etc. Et en fait, le cas d'usage, c'est parfait parce qu'on est sur un réseau dans lequel tout le monde est en compétition pour choper des clients, tous eux. Mais tout le monde est en compétition parce que finalement, dans chaque dossier, il y a au moins deux banques qui sont partenaires. Un qui back l'importeur et l'autre qui back l'exporteur. Et l'idée de la plateforme, c'est très simple, c'est comment on peut rendre le processus tellement rapide, agile, dématérialisé et à bas coût qu'on peut liquidifier le processus de trade finance et ouvrir une nouvelle line of business vers les PME. Et c'est tout ce qu'ils ont fait. Ça a pris 18 mois environ de développement. On a commencé vers avril-mai 2017. C'était un prod un peu plus tard que la fin de l'été 2018. Et là, il y a plein de learning intéressants sur ce cas d'usage, au-delà des technicalities. Le premier learning, c'est que dans un projet blockchain qui fonctionne, il faut avoir pensé tout de suite un modèle de business qui fonctionne pour tous. Donc l'erreur principale à faire, à ne pas faire dans un projet blockchain, c'est moi j'ai face à moi un client SNCF et je pense de façon égoïste à ton propre business case et j'oublie de penser au business case ou à benefit case de tes partenaires compétiteurs qui sont censés se rejoindre sur la plateforme. Donc penser à des motivateurs, des mécanismes d'incentivation et un benefit case d'écosystème. Et le deuxième, c'est le governance case, donc comment on produit de l'adoption et donc comment on met en place des règles d'onboarding et aussi des règles de offboarding qui sont claires dans la vie réelle, pas dans la blockchain, et pour laquelle la blockchain devient l'outil pour les implémenter. Et la preuve que ça a marché, c'est qu'ils étaient 7 au départ. Il y en a deux banques qui se sont ajoutées, c'est Nordea et Santander, 2 mois plus tard. Et après, ils étaient 13 à la fin du projet, donc ça a marché que même en cours de route. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'interconnecter avec une plateforme à Hong Kong qui faisait la même chose. Donc, ils se lancent dans l'interconnexion de réseaux, blockchain to blockchain, avec un challenge de moins par rapport à celle qui a été évoquée. C'est qu'au moins, les deux plateformes sont basées sur le même protocole. Mais l'interconnexion à date est faite au niveau API. Donc, pas faite au niveau protocole, mais faite au niveau business logic API. Donc ça, c'est un case. Deuxième case, TradeLens. Alors là, c'est aussi un case très intéressant en termes de learnings. Idée de Maersk, qui est le premier transporteur maritime au monde, par volume business, se dit, bon, finalement, dans la visibilité de la traçabilité des conteneurs, la chaîne de valeur est assez opaque. Et on n'arrive pas à donner une visibilité end-to-end aux freight forwarders, à tous les utilisateurs, finalement, de nos carriers. Et dans un transport quelconque, tel que le transport de fleurs entre Kenya et Rotterdam, il y a 30 acteurs et 200 ping-pong entre « je valide le document, je signe, oui c'est bon pour dédouanement », etc. Entre autres, il y a des douanes, il y a des autres transporteurs, etc. Et l'idée, c'était de consolider un écosystème autour d'une plateforme avec un sous-jacent blockchain pour avoir une meilleure visibilité de quel conteneur est où et de dématérialiser tous les documentary evidences associés au conteneur pour finalement passer vers un monde digital. Et la chose intéressante, c'est que la plateforme a pris beaucoup de temps à prendre. Au début, c'était... Pourquoi ? Et là, c'est mon feedback perso. C'est qu'au début... C'est enregistré, ça ? Oui ? Parce que le modèle de gouvernance, au début, c'était pas optimal. C'était très IBM Maersk-centric. Et le deuxième modèle de gouvernance qui est dérivé, c'est un modèle plus orienté plateforme ouverte. Et là, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le résultat aujourd'hui, Je ne connais pas tous les chiffres. Mais sur Trailens, il y a aujourd'hui... Peut-être que je l'avais sur la page précédente. Ouais. Ben, il y a 5 des top 6 ocean carriers au monde qui sont connectés ou en train de se connecter, plus un paquet de ports et douanes. Donc tous les points que vous voyez là, c'est des gens qui sont connectés. Et ce qui veut dire que d'ici la fin de l'année, environ 6 containers sur 10 dans le monde seront visibles sur cette plateforme. Je ne parle pas du sujet techno. Je parle du sujet gouvernance et modèle de business. C'est le succès ou le failure se détermine si simplement, pas par le est-ce qu'on est capable de tenir les volumes, ça c'est un sujet, mais bon, chez IBM on est des bons techos, mais surtout sur est-ce qu'on est capable de fédérer les gens. Mais bon, c'est trivial, mais quand même, c'est bien de le dire à chaque fois. Troisième sujet. Ah, ça, c'est un sujet qui me passionne particulièrement parce que c'est un sujet qui me rend fier quand je vais faire les courses. Je peux dire à ma femme, regarde, ça c'est moi, ça c'est moi, et ça c'est moi. Et aussi aux enfants, je vais vous dire pourquoi. Ça, c'est né de la même façon que cette plateforme. Donc, le monsieur de Walmart qui a eu l'idée géniale, il s'est dit, bon, faisons un petit POC blockchain sur la mangue, sur le port. Bon, ça a bien marché, top. Faisons une plateforme. Faisons Walmart et IBM. Par contre, ce n'est pas une plateforme IBM Walmart. Parce que sinon, si moi, grand retailer américain, je me fais ma plateforme à moi, mais l'autre grand retailer français se fait sa plateforme à lui, le grand industriel suisse se fait sa plateforme à lui, et après on génère le bordel dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le monde de l'ODI, dans lequel tout le monde est interconnecté, mais il n'y a pas de mémoire dans l'échange. L'idée génialissime du monsieur de Walmart, c'est de dire, c'est pas que moi et toi IBM, c'est moi, toi, plus des copains, et je les appelle, et on les appelle. Donc, bon, il y a des copains naturels qui sont arrivés, des partenaires fournisseurs de Walmart, comme Nestlé, Unilever, Tyson, Driscoll, bon, les grands dans le marché US. Mais la chose ultra intéressante, c'est que Walmart a levé le téléphone pour appeler Kroger, qui est le top compétiteur de Walmart sur le marché US. C'est comme si Carrefour appelle Leclerc ou Auchan. C'est marrant à imaginer. Donc, ils ont fait une sorte de chambre pendant 18 mois avec IBM. Donc, IBM était le plombier en train de construire la plomberie. Et eux, ils étaient les allés dans cette direction, faites la plomberie vert au premier étage, rouge au deuxième, etc. Et donc, la plateforme a été conçue sur la base d'un feedback métier très poussé par des membres fondateurs, environ plus ou moins comme Trailens, 18 mois de développement, 50-60 personnes environ, côté IBM, et beaucoup de feedback métier. Donc c'est des solutions métiers qui, et FoodTrust a la beauté d'être conçu de façon modulaire, donc comme une sorte de Apple Store, dans lequel... oui, il y a des modules qui sont édités par un éditeur logiciel appelé IBM, ou comme Apple a fait des applications natives dans les posters. Mais l'autre chose très intelligente, c'est qu'il y a un module qui a été pensé par GSF, Golden State Food, qui est le principal fournisseur de viande hachée dans une grande chaîne de fast-food américain que tout le monde connaît, qui veut passer du steak haché frozen au steak haché frais, et qui, sur la base des événements de traçabilité qui étaient déjà portés par la plateforme, donc Golden State Food a eu l'idée de créer un module d'analytics aujourd'hui appelé Freshness, qui est capable de voir dans quelle zone géographique aux US le lead time du processus est tellement rapide de pouvoir switcher du modèle frozen au frais. Et la chose intéressante, c'est que de facto, c'est un module qui a été ajouté au catalogue à la plateforme, mais qui a été édité et créé par un client ou un participant de la plateforme. Et ça aussi, c'est un autre learning très important. Parce que derrière, je ne connais pas s'il y a des royalties derrière, mais je ne serais pas surpris, finalement, d'imaginer que dans cette plateforme, l'éditeur du module en perçoive quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce module? Alors, qui va faire les courses? Choisissez le produit qui vous intéresse le plus et je fais un zoom. Donc, soit ça. Soit ça. Alors, soit c'est récent. Ça, c'est, je disais, c'est aussi mes enfants, mon enfant. Exactement. Ça, c'est tout récent. Quelqu'un achète des œufs ? Quelqu'un achète du saumon ? Mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas encore annoncer, mais il y en a un dans le luxe avec L'Oréal qui sort en janvier. Mais je ne vais pas spoiler lequel. Je ne sais pas quel est celui qui vous intéresse le plus, mais les œufs, c'était le plus complexe. Non, c'est vrai ? Alors, il y a un QR code, si vous voulez essayer. Donc, vous pointez sur le QR code. Alors, j'ai découvert sur ce projet que dans une boîte d'œufs, on peut avoir des œufs qui viennent de différents producteurs. Donc, ils peuvent avoir différentes dates de ponte. Et donc, la traçabilité qu'on a fait jusqu'à présent au lot, dans le cas des œufs, on a dû la faire au niveau œuf. Donc, il y a environ, ils font environ 21 millions, ils conditionnent environ 21 millions d'œufs par mois. Ça vous laisse imaginer la quantité d'événements. Donc, on bombarde la solution Food Trust. Et donc, vous avez tous la page. Je vous donne les codes. Je pense qu'ils sont là. Essayez avec ça. Mais si vous voulez, ça, c'est un code EDE, un DCR. Sinon, vous allez vous les acheter au magasin, ça ne coûte pas trop cher. Mais sur ce projet, on a dû faire la traçabilité à l'œuf, parce qu'en fait, ce qu'on considère comme un lot, donc une boîte d'œufs, on peut avoir des sous-lots différents. Et on s'est juste arrêté au poulailler. On n'est pas allé à l'alimentation ou à la poule, exactement. Mais en fait, l'intérêt d'un réseau qui est incrémental, c'est qu'une fois qu'on a construit le premier bloc virtuel le poulailler et le conditionnement et la logistique, rien ne nous empêche d'ajouter plus d'informations a posteriori sur l'alimentation, sur les conditions du bien-être animal, etc. Et ça, c'est quelque chose que... on voit Carrefour extrêmement bold en termes d'ambition. Ils l'ont déclaré à plusieurs reprises. Ils ont commencé avec le poulet d'Averne, ils ont fait des pubs. Mais bon, Carrefour est en train de blockchainiser pas mal de choses. Et nous sommes aussi avec eux sur ça. Ça montre l'intérêt qu'il peut avoir un retailer avec ses marques propres, mais également un industriel qui décide de faire une exclusivité pendant 6 mois avec le retailer. Donc, ils ont créé un nouveau code sur SAP pour la mousseline qui est blockchainisée et qui part chez Carrefour. Mais sur Gigoz, ils ont décidé de ne pas faire d'exclusivité. Donc, si vous allez dans un champ, vous retrouvez également des lots flashables de produits Gigoz. Oui, moi, je l'ai acheté en pharmacie. Après, la mousseline, ça date de mars, donc maintenant tous les paquets vendus chez Carrefour sont là. Le Gigoz, c'est très récent, donc je ne sais pas la chaîne d'approvisionnement. Moi, je l'ai trouvé pas loin de Versailles. Donc, les œufs matines, je les ai trouvés à côté d'IBM aujourd'hui. Et le saumon Laberry, c'est aussi très récent, mais normalement, c'est déjà distribué. Il y a d'autres produits qui vont arriver. Je ne rentre pas trop dans les détails. Est-ce que vous y voyez l'intérêt ? Là. Quels sont les challenges philosophiques de... Ouais. C'est la question.
Justement, si, à moins que tu veuilles continuer à dérouler, mais ce qui peut être intéressant, là, pour le coup, c'est justement qu'on prenne... 10 minutes de questions-réponses. On a la chance de t'avoir en expert, donc on va en profiter. Allez.
En fait, je vois bien le positionnement marketing de Carrefour, qui est peut-être pas, disons, l'hypermarché le moins cher en France. Quel est le taux d'usage constaté de flashouille des produits par rapport aux gens qui les prennent sans les flasher?
Ouais, je peux pas le dévoiler, mais je le connais parfaitement. Donc c'est comment vous dire? Alors, je peux vous dire certaines choses. Non, mais parce que évidemment il y a des analyses qui sont faites et un mousseline c'est un produit ancien qui a plein de qui est génial en termes d'analyse. Parce que c'est un produit qui existe depuis toujours, qui a zéro saisonnalité. Donc c'est ultra prédictible en termes de vente. On connaît la différence de vente pré- et post-blockchainisation. Et c'est impressionnant. Carrefour, c'est des gens pragmatiques. Hein. S'il n'y a pas un ROI, ils ne le font pas. En tout cas, s'il n'y a pas un ROI, ils arrêtent. Et Nestlé, pareil. On connaît le temps que les consommateurs passent sur cette page. Et effectivement, ça rejoint la remarque sur l'aspect marketing. Les consommateurs passent entre 1 et 2 minutes sur la page. Il faut positionner dans un contexte différent. Le contexte est... Vous connaissez tous Yuka ? Ok. Donc, Yuka, c'est une chose génialissime pour nous, consommateurs, en admettant que la data soit vraie. Mais disons que c'est vrai. Comment ? Ouais, mais c'est une information open food fat, c'est pas une information autoritative. C'est-à-dire que si moi je veux écrire, c'est comme Wikipédia. Mais j'adore Yuka, hein. Mais c'est juste que c'est pas de la data Y. Bah, je peux vous montrer un Yuka si vous voulez, si vous avez le connecteur. Mais bon, vous pouvez la télécharger. Voilà. Je ne reviens pas sur la qualité de la data de Yuka, mais je reviens sur le fait que Yuka, vous avez 10 millions de téléchargements en France. Vous avez un truc qui est très puissant dans les mains d'un consommateur, un consommateur averti, comme certains, qui flash, qui lit et dit ça c'est bon ou c'est pas bon pour moi, sur des critères qui sont définis de façon presque arbitraire de Yuka. Donc, du côté retail, au côté industriel, c'est extrêmement chiant. Parce que d'un côté, c'est l'application qui dit, qui conseille le consommateur s'il doit acheter ou pas. Mais en plus, si le produit n'est pas considéré super bon, il y a le produit substitutif qui s'affiche. Et si moi, j'essaie de vendre un produit de marque propre qui n'est pas bon pour une quelque raison, et il y a le produit substitutif qui s'affiche, en fait, j'ai un engagement négatif du client et un redirect vers achète l'autre produit. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut prendre l'initiative dans le food. Après, il y a un deuxième contexte, c'est que Carrefour, et le cas je connais très bien, ils ont commencé par les produits qu'ils appellent FQC, filière qualité Carrefour. C'est des marques propres très haut de gamme avec des cahiers de charges ultra contrôlés, et des producteurs extrêmement haut de gamme, voire rares. Et les producteurs haut de gamme, voire rares, ils peuvent tranquillement vendre leurs produits qualitatifs à Carrefour, mais aussi aux autres. Donc la dynamique du grand et méchant retail, je t'écrase dans la bataille de prix, ça ne marche pas du tout dans ce cas-là. Donc au contraire, Carrefour a choisi un engagement positif de dire « je te offre une vitrine pour mettre en valeur ton savoir-faire, et la plateforme devient un outil pour générer de l'adhésion et donc de générer un network effect positif. C'est un côté marketing, certes, mais c'est l'autre côté, c'est que c'est pour la première fois dans le projet Mousseline que Nestlé avait une vision des processus de distribution chez Carrefour. Et Carrefour, pour la première fois, qui avait une visibilité sur le processus de traçat et de production chez Nestlé. Ça, c'est tout con, mais en fait, on a découvert plein de choses dans le projet et des flous internes qui n'étaient pas connus pour des raisons d'optimisation logistique et supply chain. Une chaîne de traçabilité complète a permis de mettre en évidence certaines choses. Et de l'autre côté, par exemple, ils se sont dit, Moi, Nestlé, j'ai fait des forecasts de vente de la mousseline. Moi, Carrefour, j'ai fait des forecasts de vente de la mousseline. Et en fait, on ne se les partage pas. Et une fois que vous avez établi une liaison entre deux nœuds, alors pas nœuds dans la technologie blockchain, mais nœuds virtuels, maillons de la chaîne, après, imaginez la quantité de choses que vous pouvez partager. Donc, l'angle marketing, c'est le point d'arrivée, mais, ou le point de départ du projet. Mais l'angle sous-jacent, c'est l'optimisation et l'excellence opérationnelle que vous pouvez driver en étant connecté avec vos partenaires dans la même chaîne de valeur. Et il y a un troisième aspect, c'est que dans un réseau dans lequel les partenaires se plaguent, les efforts d'onboarding, au lieu de les porter vous tout seul, sont portés par le réseau. Je vous fais un exemple. Je suis Auchan. Je ne suis pas sur la plateforme. Je n'ai rien à faire. Nestlé est déjà là. Je n'ai rien à faire. Laberry est déjà là. Donc, et l'effort d'onboarding a été fait précédemment. Ça me coûte zéro d'onboarder. Nestlé ne me connecte pas. Vice-versa, je suis Nestlé. Carrefour est déjà là. Walmart est déjà là, Kroger est déjà là, Albertson est déjà là. Et aujourd'hui, il y en a un peu plus de 150 acteurs autour de la table. Donc finalement, c'est le network effect, on le voit en termes d'adoption. Plus il y a de participants, plus la valeur du réseau, et je rejoins, je pense, ce que Vidal disait, plus il y a des participants, plus la valeur du réseau se multiplie. J'ai répondu à la question ?
Oui, merci. Alors, j'ai plein de questions, mais je vais en commencer par une. Effectivement, toutes ces initiatives sont intéressantes quand on a, par exemple, le numéro 1, numéro 2, numéro 3 sectoriel qui joignent la même plateforme. Basé sur votre expérience, on arrive à faire venir les concurrents au tout début en leur disant « c'est la page blanche, montons quelque chose d'intelligent ensemble » ou quand il y a déjà un début de POC, qu'on dit « regardez tous les avantages que vous aurez, en fait c'est déjà opérationnel, on veut juste avoir, vérifier que ça correspond à vos besoins ou à vos pratiques. » Voilà, comment ça se passe le négo ?
Ouais. C'est pas une négo, mais c'est très intéressant la question. Je vous donne mon éclairage, c'est l'éclairage d'IBM. Donc, ça peut ne pas satisfaire tout le monde. Donc, d'un côté, moi, mon grand learning, c'est que la démarche bottom-up ne marche jamais. C'est-à-dire que faire un petit POC dans un coin, dans un lab du client, et espérer que ce truc remonte à l'attention du PDG, j'ai jamais vu marcher. De l'autre côté, je sais que quand le PDG de Carrefour se tape dans la main avec le PDG de Nestlé, en 3 mois, le projet est fait. Ça, c'est une première chose. Bon, je pense que je ne vous ai pas appris une grande leçon de vie. Si ? Hein. Mais quand même, c'est une leçon. Moi, je l'ai découverte dans mes derniers 5 ans d'IBM, 4 ou 5 ans de blockchain IBM. Je suis plutôt clair sur ça aujourd'hui. Après, il y a un deuxième aspect, c'est que quand vous devez créer un réseau from scratch, soit vous avez ce que nous, on appelle chez IBM un jargon interne, un center of gravity, le soleil, soit il faut être vraiment bon, ou il faut passer du temps. Et effectivement, ce n'est pas une coïncidence que les deux réseaux qui me cartonnent aujourd'hui, un, c'est né par Maersk, qui est le numéro 1 de transport maritime, et Food Trust. En fait, Nestlé, Walmart, Kroger, et tous les autres, en fait. À un certain moment, quand vous êtes personne dans l'écosystème, c'est peut-être plus compliqué. Après, vous avez beaucoup moins de contraintes. Quand vous êtes un tout petit acteur et vous voulez fédérer... Donc, c'est pour moi l'histoire de comment vous créez une niche player qui prend du succès. Mais là, nous, on ne l'a pas encore fait. Nous, pour l'instant, on est plutôt sur tous les projets qu'on porte. Et juste pour vous donner une idée semi-transparente, des projets qu'on porte en France, on est très souvent avec des centers of gravity. J'ai répondu à la question ?
Bonjour. Je constate en fait que vous démontrez les business cases qui sont essentiellement dus au retail et donc à la traçabilité. Il y a d'autres solutions pour mesurer la traçabilité, surtout dans le food, et oui. C'est pas forcément toujours la bonne solution. La blockchain, pour une question de rentabilité, elle est pas toujours là. Est-ce qu'on peut pas dire...
Vous pouvez élaborer sur la question de rentabilité ? Bien sûr.
Sur la traçabilité,
rentabilité.
Juste pure.
Rentabilité.
Oui, je vais y arriver. La traçabilité, c'est intéressant de savoir d'un point A à un point B, mais est-ce qu'on peut pas dire que la blockchain devient rentable comme solution de traçabilité si on y ajoute de la valeur, c'est-à-dire du workflow. Par exemple, je pense que 8threads, ce qui était intéressant, c'était éviter les 320 documents qui allaient de l'un à l'autre, sachant qu'il n'y en avait qu'un seul qui pouvait bloquer le paiement. Ou alors, sur les œufs, peut-être aller beaucoup plus loin derrière que simplement juste la traçabilité. Je pense que, enfin, je constate que c'est quand on ajoute de la valeur, le workflow, le paiement, le KYC, que les sociétés y vont. Parce que là, il y a de la rentabilité.
Je me trouve très d'accord. Après, le constat que j'ai fait sur cette plateforme, sur TradeLens, la plateforme dans le logistique, effectivement, on est en train de monter des choses de gestion des invoices, etc. Donc, les sujets à valeur ajoutée. Mais là, sur cet angle-là, en fait, on utilise un coût nécessaire.
Il y a des solutions qui existent.
Moi, ça fait quand même 2 ans que je discute souvent avec tous les directeurs qualité de plein de gens. Quand je montre ça, ce n'est pas une solution de traçabilité avancée, hein, mais c'est une solution qui permet de voir ce qui fait l'autre. Et dans les solutions de traçabilité qui existent aujourd'hui, ça n'existe pas encore, sauf à établir une base de données centralisée qui est détenue par un quelconque acteur de confiance, sauf que je me retrouve face à moi des gens qui n'ont jamais aucune envie de pusher leur data chez un tiers. En fait, la mode de « je push la data chez un tiers » de confiance est finie, heureusement. En tout cas, si vous arrivez à l'imposer dans votre écosystème, continuez à le faire, parce que c'est la meilleure façon de monétiser. Mais si vous n'y arrivez pas, la blockchain, c'est souvent une option psychologiquement attirante pour dire la data, à toi, reste à toi. Et nous tous, on coopère notre data. Et après, je termine sur le point de traça. Dans le point de traça, en fait, ce qui se passe, c'est que je prends un Carrefour ou un Nestlé, ou peu importe. Il prend un mal nécessaire ou un bien nécessaire, qui est la traçabilité. Ils sont obligés de le faire de toute façon. Sachez, en France, les gens sont plutôt fiers de la traçabilité. C'est une vision externe. Ils sont obligés de le faire. C'est un coût de compliance. Mais l'idée qu'à la base est l'idée de Carrefour, c'est de rendre ce coût un source of revenue. Parce que finalement, je l'associe à un twist marketing, en éduquant mes consommateurs au mot blockchain, qui est un truc très obscur. Quand je dis à ma mère blockchain, elle me dit « Oula, c'est quoi cette histoire ?» Et finalement, quand vous expliquez que ce registre, qui est juste un registre très stupide, est immuable, que Carrefour ne peut pas aller modifier les choses a posteriori, qui n'est pas opéré que par Carrefour, mais c'est une sorte de distribution de la data, décentralisation du pouvoir. Et c'est un truc qui fonctionne très bien psychologiquement pour dire on peut passer d'un monde de la promesse d'une allégation à un monde de la preuve. Moi, je me rends auditable au fait que je ne pourrais pas modifier le registre. Ça marche pas, j'en sais pas. Mais par contre, c'est l'histoire d'avoir un coût nécessaire qui est la traça et le twister en un incrementer de vente. Et ça marche. En tout cas, pour l'instant.
Emmanuel, tu avais une question, je crois.
En fait, à la base du projet, l'idée avant de faire du marketing et puis de rendre la purée en sachet plus sexy, en fait, c'était, si j'ai bien compris, des scandales alimentaires aux États-Unis où il y a des gens qui sont décédés en ayant mangé des épinards avariés. Nous, en Europe, on a connu la vache folle, etc. Donc, dans ce contexte-là, en fait, l'idée, c'est est-ce qu'on n'a pas besoin d'un système décentralisé sans tiers de confiance ? Et est-ce que dans votre solution, c'est pas un petit peu IBM qui est le tiers de confiance, notamment en hébergeant la totalité des nœuds, alors que le retailer, quand il a un poids suffisant comme Walmart, il pourrait très bien dire « Moi, je suis Trust No One, j'ai suffisamment d'informaticiens et je veux qu'ils regardent tout ce qui passe. » Et s'il y a des épinards avariés, je ne fais pas confiance dans un hébergement centralisé par un... Voilà.
Merci pour la question. Donc, le premier point, c'est vrai que la solution aux US a été pensée plus comme une solution de food safety. Donc, les épinards, tous les problèmes qu'ils ont eus, et ils ont eu des problèmes méchants. Et en France, en fait, quand je parle à Carrefour ou les autres, je me dis, bon, au niveau de ça, on a tout ce qu'il faut. Après, ça peut péter de temps en temps, ça arrive. Mais ils sont beaucoup plus fiers qu'aux US, en tout cas. Et là, je ne suis pas un expert métier. Sur la décentralisabilité, la solution est hébergée aujourd'hui dans le cloud IBM. Mais la solution a été pensée sur trois couches différentes. Donc, du haut, solution métier, donc interface web, interface API. Couche plateforme as a service, donc blockchain as a service. Ça a été construit sur IBM Blockchain as a Service, qui est un orchestrateur de facto de containers et de réseaux Hyperledger Fabric basé sur le protocole Hyperledger Fabric. La V1, je me permets d'être un peu technique pour répondre, mais je vous donne un éclairage complet. La V1 de IBM Blockchain Platform supportait seulement la possibilité de tourner sur le cloud IBM. Pourquoi ? C'était la première version. Je pense que IBM, pour pas trop, pour prioriser le développement, on a fermé certains cas. On a dit, bon, si vous voulez utiliser IBM Blockchain Platform, donc un orchestrateur de réseau Hyperledger Fabric, ben la contrainte, c'est que vous déployez ça sur le cloud IBM. La V2, qui est arrivée l'année dernière, a introduit la logique de... Donc, a introduit un orchestrateur Kubernetes qui permet techniquement d'orchestrer des nœuds qui sont dans le cloud IBM, dans le cloud Google, dans le cloud Amazon, Microsoft, et aussi chez vous, si vous avez un Kubernetes service. Donc techniquement, il y a déjà des gens autour de la table dans Foodtrust qui ont émis la volonté d'avoir un nœud chez eux. Techniquement, c'est possible. Après, et donc là, c'est la réponse de technologue. Après, il y a la réponse de garçon pratique. Il y a une quelconque raison pour laquelle vous voudriez héberger un nœud de la solution chez vous, en sachant que toutes les transactions qui passent sont chiffrées. Donc, en fait, si vous regardez dans le registre, vous voyez du chinois, et que vous portez vous-même le coût, pas seulement de vous, mais le coût de toutes les transactions qui se passent sur le réseau.
Si vous avez 100 partenaires, les 100 partenaires, ils n'ont pas forcément IBM qui est référencé comme cloudeur auprès de leur acheteur. Donc vous pouvez très bien avoir un acheteur qui dit, moi je travaille avec Amazon ou Microsoft ou Google et aller vers le moins cher des trois. Et puis voilà, c'est sa préférence.
Ah, c'est...
Surtout si c'est des petits, quoi. Si c'est des petits, plus petites entreprises, voilà. Peut-être pas Nestlé, mais...
Non, mais on est d'accord. Mais le modèle de commerce, je ne suis pas venu ici pour faire du marketing, hein, mais j'insiste. Sur le fait que finalement, raisonnons comme des garçons pragmatiques, je ne veux pas, ou le cloud IBM n'est pas référencé chez moi, je veux héberger un nœud chez moi, dans mon cloud à moi. Oui, mais vous portez les coûts de setup à vous. Or, si vous consommez une solution qui est plutôt un mode as a service, vous payez en demand, donc personne ne le fait aujourd'hui. Il n'y a pas. En fait, le coût d'être strict en termes de philosophie n'a pas un bénéfice assez fort pour le justifier. Après, techniquement, c'est possible.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, Nicolas.
Moi, j'ai une question. Vous êtes un peu au cœur de la machine blockchain en termes d'avancée. Et pour demain, est-ce que vous pensez que ça va... que le monde sera plus décentralisé, avec plus de transparence, plus de liberté. Qu'est-ce que vous pensez ? Et est-ce que, par exemple, l'ensemble des acteurs, je dirais comme les moteurs de recherche, etc., utiliseront des techno-blockchain plus tard ?
Est-ce qu'il y a quelqu'un de Google à ça ?
Non.
Je ne vais pas répondre sur la dernière, parce que c'est trop loin, et je suis très mauvais en philosophie. Par contre, je vous donne... des réponses sur là où je pense qu'il y aura un focus à terme chez nous. Un, les tokens. Donc je vous apprends rien, mais faire des tokens dans un monde B2B en préservant la privacy, la confidentialité, la décentralisation, c'est un truc très intéressant. Il y a des cas d'usage auxquels on réfléchit sur le swap de cash contre titre, des choses incroyables à faire. Donc, est-ce que le monde va être plus décentralisé? Ben oui, parce que même si on le travaille avec des institutions centrales, l'impulsion, c'est de rendre les systèmes plus décentralisables. Est-ce que après ils vont être plus décentralisés ou pas? J'en sais pas. Et le deuxième axe sur lequel je pense qu'il y a, là je me trompe absolument pas, c'est que là on est dans la construction de réseaux. Et finalement, en quoi le réseau de droite ne pourrait pas causer avec le réseau de gauche? À partir du moment où on se fait livrer de j'en sais pas quoi, de j'en sais pas où, en France. Et en fait, le monde dans lequel je suis à 200% d'accord avec votre question du début, c'est l'interopérabilité. Je pense que les seuls protocoles blockchain qui vont survivre sont les protocoles qui vont démontrer une interopérabilité avec le même protocole et avec d'autres protocoles. Il y a trois couches d'interopérabilité. La couche facile qu'on peut faire aujourd'hui au niveau API. Donc, je m'interconnecte au niveau applicatif, deux blockchains séparés, deux gestionnaires d'identité différentes, je crée un pont sur la couche applicatif. Pas de problème. Deuxième mode d'intégration, je vous parle de Hyperledger Fabric parce que je suis plus compétent sur ça, mais je ne sais pas si sur Ethereum il y a le même sujet. Aujourd'hui, un smart contract, donc une application décentralisable, une DApp de Hyperledger Fabric, peut causer sur un seul channel. Donc avoir un smart contract qui cause sur deux blockchains, même du même protocole, ça n'existe pas encore. En tout cas sur Hyperledger Fabric. Pour plein de bonnes raisons. Ça va arriver. Donc le niveau 2 d'interopérabilité, c'est comment je connecte deux blockchains du même protocole. Dans Hyperledger Fabric, on peut diviser la blockchain en channel, ce qui équivaut à dire j'ai créé deux réseaux différents. Comment j'ai créé, je ne sais pas, une leg cash et une leg security. Et un smart contract qui est capable de swapper les deux sur les deux réseaux. Ça, c'est le court terme. Et après, le moyen long terme, c'est comment je swap un token Ethereum avec un titre sur Hyperledger Fabric. Et j'y crois, hein. J'y crois. Et en fait, j'ai observé des choses assez intéressantes au niveau gouvernance de l'Enterprise Ethereum et de Hyperledger. C'est qu'il y a quelques temps, je ne sais pas si vous lisez la presse, ils ont nommé un mec de Ethereum Enterprise dans la chaire de Hyperledger et vice-versa. Comment personnellement, je l'ai interprété, c'est qu'il y a, et après il y a une autre chose qui est arrivée, c'est la capacité à supporter du ERC20 dans Hyperledger Fabric, c'est la capacité à se dire, ben, un certain jour, il faudra qu'on pense un peu, de façon un peu plus standard, et qu'on pense à interopérabilité à terme, cross-protocol. J'ai répondu, vous avez donné votre question, j'ai donné mes réponses. C'est un français célèbre qui disait ça, non?
Une dernière question, peut-être? Bon, ben, merci beaucoup, Lucas.
Merci à vous.
Bon, ben, on a bien travaillé, hein, ça fait 4h30 qu'on est... Bon, j'espère, ça fait un peu comme des masterclass. Moi, j'aime beaucoup ce format. C'est la deuxième fois qu'on le fait. Et on va le refaire. Donc, ben, vous serez, enfin, c'est sur d'autres thématiques ou peut-être encore sur la blockchain. Donc, merci d'être venu. Mais voilà, merci et puis à très bientôt.